بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيوان جاء الله سبحانه وتعالى سن يبدمون كل أبيل أبن بسند الله سبحانه وتعالى سجيسون لسجي محمد صلى الله عليه وسلم سيسا فاميل سي كمبانيون سيكي سيبران سن شمان جسكو جور داني dans le livre Kitab al-Tawhid, alayhi wa haqqullahi wa al-ibad, le livre de l'unicité d'Allah, dans lequel on fait allusion au haqqullahi wa al-ibad, le droit d'Allah envers ses habitants, au haqqullahi wa al-ibad, le droit des habitants envers Allah. Cheikh l'Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a cité le 19e chapitre. Bab, ma ja'a min al-tanvalizi. في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده باب شبيت ما جاء من التغليظ لا رجال لا منس برابر السلوكي أدور الله أبدا دين تنبو دون فيه لا رجال. La menace qui vient dans les textes, dans les récits prophétiques, montrant que celui-là qui adore Allah auprès des tombes des pieux, ou bien auprès d'une tombe d'un pieux, son cas est déjà grave. Qu'en est-il donc? Ou combien de fois celui-là qui adore directement alors le mort. Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah, essaye de nous amener une situation récurrente dans nos sociétés où les gens ont parfois l'habitude d'aller faire des rites, des pratiques d'adoration auprès des tombes des hommes tués. Ils disent parfois qu'ils sont en train de prier pour le mort, alors qu'ils sont en train d'invoquer le mort, ou bien d'invoquer Allah, mais une invocation qu'on fait auprès d'une tombe, par exemple, d'un pieux. Combien de fois c'est le pieux là qu'on adore à l'homme? Et vous savez que la plupart des saintetés, les gens les ont donné une place glorieuse, au point où, même après la mort, on a continué à les traiter de divinités. Des choses, des gens qui sont là dans les tombes, mais qui résolvent les problèmes. Et une des formes d'adorer Allah auprès des tombes, c'est par exemple prendre une bête qu'on veut sacrifier à Allah, mais on choisit de sacrifier vers un cimetière. Mais pourquoi le cimetière? C'est parce que quelque chose ne va pas. C'est parce qu'on veut, on veut montrer aux gens qu'on fait pour Allah, alors que c'est pour les morts qu'on est en train de faire. Sinon, est-ce qu'on a besoin d'évoquer une bête qu'on veut donner à Allah vers les tombes? Parfois encore, pour que vous compreniez mieux encore ce chapitre, c'est l'aspect bizarre de notre société d'aujourd'hui, où les mosquées sont transformées en des cimetières. C'est-à-dire où on amène un imam, on enterre, on dit l'imam avec le chemin de Wasaya, que si on enterre dans la chambette qui est souvent à la mosquée avant, en avant là, où l'imam entre avant le vendredi et s'assoit d'abord. On dit l'imam, on dit qu'on enterre ici. Et c'est comme ça que bêtement, les gens vont appliquer. Tout le monde dit surtout le wasaya de l'imam, comme si c'était un verset coranique. Et malheureusement, ils vont enterrer l'imam là-bas. Et vous connaissez que c'est devant, n'est-ce pas? Ça veut dire que les gens prient et font le sujet en regardant là. Admettons même que là où l'imam est enterré là, celui qui est entré n'est pas en train d'adorer l'imam, il adore plutôt Allah. Mais il est en train d'adorer Allah où? Là, à côté d'une tombe d'un homme pieux, supposons même que l'imam est pieux. Et là, alors que dans la plupart des cas, c'est le muqtadi. Parce que sahib al-sunnah, la yaf al-dhalik. Ou la yusuf al-dhalik. Celui de la sunnah, quelqu'un qui maîtrise la sunnah en tant qu'imam, ne peut pas recommander qu'après sa mort qu'on l'enterre dans une mosquée. Les mosquées sont des lieux de culte et non pas été faits comme cimetière. Le cimetière, c'est autre chose. Et la mosquée, c'est autre chose. Maqbara veut dire cimetière et masjid veut dire mosquée. On ne mélange jamais masjid et maqbara. Donc maintenant, celui-là qui est entré dans la mosquée est en train d'adorer Allah. Il est en train d'adorer Allah auprès de la tombe d'une sainte, d'un homme pieux, supposons. C'est déjà dangereux. Combien de fois s'il allait même directement au cimetière commencer à faire des pratiques là-bas? C'est ce que l'auteur veut nous amener à comprendre. Et ces gens qui se font enterrer ou bien qui enterrent parfois les imams dans les mosquées, ils font par comparaison ou bien par analogie, qui est une fausse analogie, un faux qiyas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est enterré dans la mosquée, dans sa mosquée. Or, il n'est pas enterré dans sa mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été enterré dans sa mosquée. Et nous allons lever les équivoques ici, niveau par niveau. S'il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa mosquée, est-ce que lui, il est le prophète Mohammed? Il est comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La différence entre tout imam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Mohammed est le messager d'Allah. Et toi, tu n'es pas le messager d'Allah. Mohammed est le messager d'Allah et tout messager où il meurt, on l'enterre là où il est mort. On ne le déplace pas. Et s'il meurt quelque part, on enlève juste la natte où il était couché et on creuse la tombe là où il est mort. Et c'est comme ça les ahkam janaza avec les anbiya et les musulmans. Contrairement à tout un chacun qui n'est pas nabi ou un rasoul. Alors que le prophète Mohammed n'est pas enterré dans sa mosquée, il fut enterré dans la chambre de Aïcha où il est décédé. On a juste enlevé le lit et on a creusé la tombe. Et on l'a enterré. Abou Bakr Siddiq, quelques deux ans après meurt, on l'enterre à côté du prophète, parce qu'il avait sollicité et aimé. Il y a une place qui restait dans la chambre de Aïcha. Aïcha, radiallahu anha, programmait que ce soit elle qui soit enterrée là-bas. Mais malheureusement, Omar ibn Khattab meurt avant elle et demande la permission pendant qu'il est malade, si Aïcha peut accepter qu'on l'enterre dans la chambre où Abou Bakr Siddiq et le prophète Mohammed sont enterrés. Et Aïcha ne pouvait pas refuser. Et elle a accepté. C'est donc comme ça que le prophète Mohammed, Abou Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab sont enterrés dans la chambre de Aïcha. Dans la maison de Aïcha. Parce que chaque épouse du prophète avait sa petite maison. Alors, la mosquée plus tard grandit et attaque la concession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où on finit par détruire les maisons des épouses et la concession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la maison d'un de Aïcha et la chambre où est enterré le prophète Mohammed et Abou Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab est à l'angle avant, à l'angle de la mosquée, pas dans la mosquée, à l'angle extérieur de la mosquée, séparé même de la mosquée. Alors, voilà la différence. C'est que regardez dans la contradiction avec le qiyas, avec l'analogie. C'est que vous avez demandé qu'on vienne vous enterrer dans la mosquée. Alors que le prophète fut enterré dans la chambre de Aïcha et la mosquée est venue la trouver. Si tu avais été enterré chez toi, imam, est-ce que la mosquée devait venir s'agrandir et se trouver là-bas? Si tu avais été enterré dans ta propre chambre, où serait le problème? Quand même, c'est même pas bien d'enterrer les gens dans les maisons où on vit. Alors, on n'associe pas une mosquée et une tombe à la fois. La solution dans le cas de mosquée où on a enterré quelqu'un, c'est faire comment? C'est abandonner cette mosquée-là et ça devient un petit cimetière pour quelques nombres de personnes. Si vous voulez enterrer les imams et les naïbis, les anciens, les musulmans et les fidèles, les présidents de la mosquée, les pieux de la mosquée, si vous voulez les enterrer là-bas maintenant. Mais ce n'est plus une mosquée, c'est devenu Makbara. C'est devenu cimetière. Masjid a changé pour devenir cimetière. Maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre. Que l'auteur n'a pas mis ce chapitre pour rien. C'est parce que quand vous enterrez une personne dans une mosquée, ce n'est plus une mosquée, mais c'est devenu cimetière. Parce que les gens vont adorer Allah dedans alors qu'il y a une tombe. Même si c'est Allah qu'ils adorent là-bas. C'est dangereux pour l'autorité. Combien de fois? Si c'est maintenant la personne là qu'on adore directement. Sans oublier que certaines personnes, au fil du temps, quand on a fini d'enterrer les imams là-bas, parfois on a besoin de venir encore coller la photo de l'imam là-bas. Dans la petite chambre, là, quand tu entres la chambre là comme ça, tu trouves dans l'imam dans une grande photo. C'est donc comme ça que parfois certains fidèles entrent. Au lieu d'appeler d'abord 2 rakats de la salutation de la mosquée, ils commencent d'abord par s'agenouiller là-bas et demander un peu hein, les barakats avant de demander à Allah, par exemple, Tahiyat, Masjid, Wada Ta'arifun, Wata Shahidun. Et ça, vous connaissez, n'est-ce pas? Et vous voyez encore dans des photos, des images, qu'on vous balance dans WhatsApp, vous voyez des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Les gens sont très loin de l'autorité. Non. Ça, c'était le titre. Wa fi sahih, an Aisha radiallahu anha, anna umma Salama, ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أو وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا قال المصنف هؤلاء جمعوا نعم ذكر فقال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين نعم فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل Aïcha radiallahu anha, comme c'est venu dans Sahih al-Bukhari, nous avons dit que lorsque l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab précise, dit au fils Sahih, sans préciser ce qu'il s'agit de Sahih al-Bukhari, Sahih de non-Bukhari. Et la personne qui rapporte le hadith, c'est Aïcha. Mais elle rapporte un hadith dont elle n'était pas, elle était encore très jeune. Une histoire que Umm Salama a rapporté au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais parce que Umm Salama était en Abyssinie. Elle fut parmi celles, parmi les Sahabas qui ont immigré de Makkah pour Abyssinie avant Médine, avec son époux, Abu Salama. C'est quand Abu Salama meurt qu'elle devient épouse du prophète Mohammed, parce que le prophète l'a épousé après la mort d'Abu Salama. Zakarat, Umm Salama a mentionné au prophète Mohammed, Zakarat de Rasulullah, elle a mentionné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est une église, Ra'adha bi ardi al-Habasha, qu'elle avait vu pendant qu'elle était en terre d'Abyssinie. Alors, dans cette église, il y avait quoi? Des images de personnes de sainteté. Vous savez, comme de nos jours, dans les grandes églises, parfois les photos des moines ou bien des prêtres, des anciens saintetés, les papes sont représentés, les saints Marie, les saints José, les saints ceci, donc. Dès que tu passes, on laisse ton image dans l'église pour que tout le monde sache que c'est là. Et même les musulmans sont parfois tentés par cela. Une dynastie de Cheikh Hotel, on fait son image. C'est vraiment de devenir récurrent maintenant, comme les mosquées même reçoivent déjà ces genres de photos-là. Parfois, dans certaines mosquées de Mashaïch, de Cheikh Turuk, Sophia, on a grandi parfois la photo d'un grand Cheikh comme ça, là, on met là quelque part dans la mosquée. Subhanallah, comme les églises à l'époque. Alors qu'il n'y a pas d'image, on n'entre pas avec une image dans la mosquée. Une photo, même sur le vêtement, c'est interdit, c'est pas bon. C'est détestable. C'est haram. Alors, Umm Salama mentionne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une église dont elle a vu, les Ardes de Habasha en terre d'Abyssinie, où ma fille Haminat Souar, avec tout ce qu'elle comportait comme image, les photos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à Umm Salama, Oulaïka idha mata fihim ar-rajul as-salih, ces gens-là, lorsque un homme tué mourait parmi eux, ou bien un abdu salih, un serviteur tué, n'est-ce pas, banu ala qabrihi masjidan, et il construisait sur sa tombe un musulaire, c'est-à-dire qu'une maisonnette. Et vous constatez de nos jours que certaines personnes, il y a des tombes où on a fait spécialement une maison, on a même galé ou on a même fait la toiture. Il y a bien fait avec un carreau, vous sentez que c'est une bonne maison, bien fait. Donc, ceux-là, quand une entité meurt chez eux, ils construisent sur sa tombe une maison. Cette maison, au départ, ce n'est pas comme si c'était un lieu d'adoration, mais après ça devient masjid, un lieu d'adoration. Donc les gens viennent, ils entrent là-bas pour se recueillir spirituellement. On est en contact avec l'esprit des ancêtres ici. Le grand-papa patriarche est en train de communiquer avec les papas qui sont morts. Et ils sont nous dit ce que les morts ont dit. Gros menteur. Et le gros menteur pour anarquer. Alors ils sont qu'on va raconter ce que les morts ont dit, les morts ont fait, subhanallah. Mais curieusement, parfois, ça va même jusqu'à un niveau où on dit que les morts ont besoin de biens. Avant, on vient déposer les bijoux là-bas en or, les bijoux en argent, même l'argent en espèces. Hein? Il y a certaines personnes qui sont les promoteurs de ces choses-là. Ils sont là pour reprendre ces bijoux-là pour aller revendre. Ça fait la richesse. La richesse. Non? Non. Et après, vous dites que c'est les morts qui ont récupéré. Ils ont récupéré. On vient la cache une chèvre là-haut pour le mort. Hein? Après, les gens l'ont enlevé pour partir avec. On dit que les morts ont accepté l'offrande. Ils ont accepté de prendre. Et c'est comme ça que les gens sont fiers de venir encore donner les autres. Et c'est comme ça qu'ils mangent, ils deviennent costauds. Hein? Alors, mais le curieux, c'est que le mort qu'on dit qu'il a pour garder le village et le quartier ou la concession familiale. Les bandits viennent cambrioler, ils ne le défendent pas. Les bandits viennent cambrioler la concession. Mais il est couché là, on travaille sur lui, comme ça, pour cambrioler la concession, il ne le défend pas. Il n'avertit même pas la famille que. On va venir vous cambrioler. Les bandits sont en train de vouloir venir vous cambrioler. À la colle des halles, là, c'est l'esprit faible de l'homme. Quand tu n'investis pas dans le tawhid, tu n'apprends pas le tawhid, tu fonctionnes comme le bestieux. Comme Allah dit, Inhum, illa tal'an'am. Ils ne sont que comme des bestieux. Belhum adal. Ils sont encore plus pires que les bestieux, les animaux. Vous voyez que quelqu'un va donc s'ajeuner devant une tombe, il adore. Ça devient un lieu de séjour. Parfois, ils arrivent, ils mettent la tête par terre. Parfois, ils se plient devant la tombe. N'est-ce pas? Non. Le prophète dit, « Oulaïka idamata fihim arrajul salih » Cela, quand un homme pieux, ou Abdul Saleh pieux, un homme pieux, un serviteur pieux mourait, « Banu ala kabrihi masjidan » Il construisait sur sa tombe une mosquée. « Wasawwaru fihi tilka suwar » Et alors, dessiner ou fabriquer des images de cette femme-là pour venir coller encore là. Et tu passes quand tu vois une demi-statuette pour qu'on sache que c'était ce papa-là était comme ça. Et ce papa-là, comme il est aussi bizarre, comme on l'a fabriqué, on l'a dessiné et fabriqué, après peut-être 50 ans, les gens vont l'adorer. Les gens vont venir, ça va commencer à pleurer, hein, vénérer, marcher, parler de ce qu'il était converti et ça montre qu'il était proche d'Allah, au point où, au lieu d'invoquer Allah, c'est trop long. On passe par lui, on l'invoque, lui, la même salle fois chez Allah. Naam. Naam. Oulaïka shiraru al-khalq indallah. Le prophète dit, ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Si le prophète dit que ces Yahoud et Nasara là sont les pires des créatures auprès d'Allah, à cause de cet acte-là, ça veut dire que même les musulmans, s'ils font la même chose, ils seront aussi pieds des créatures auprès d'Allah. Les musulmans de nos jours, quand quelqu'un meurt, on met le ciment, on dalle, et on écrit papa, tête, décédé de tête. Fait à son âme, parfois, il est seulement venu coller une photo de lui là-bas. Subhanallah. À force de vivre avec un homme musulman, on finit par copier leur manière. Il y a des cérémonies ou des assises où parfois un musulman se lève, un ou une musulmane se lève pendant qu'on a fini de mentionner un mort, il dit que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Non. Parce qu'il entend les koufars dire la même chose, Dieu aussi dit ça. Parce qu'il entend là-bas quand les koufars parlent, dire que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Lui aussi, il vient comme ça, pendant que son oncle est couché là sur la tombe, on lui montre la tombe de son oncle ou son grand frère ou son grand-père, il dit, oh, vraiment, tonton tel, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Les ancêtres ont une terre. Ils ont créé la terre. Allah qui est le créateur de la terre, vous ne dites pas que Rahimahullah, qu'Allah lui soit miséricordieux. Vous demandez que la terre des ancêtres. Les ancêtres ont une terre. C'est le shirk que vous avez pris. Des paroles que les coupables prononcent pour prononcer aussi la même chose devant vos morts. Au lieu de dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », il ne connaît même pas dire ça.
Il dit plutôt que la terre nous enseigne une chose. Que ton âme repose en paix. Et il dit des choses que les koufars disent ce soir. Il ne connaît pas le doua. Non. Donc que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Parce que c'est retirer ce que c'est toucher Allah dans sa reboubia. C'est démontrer qu'Allah n'est pas le seul qui a créé la terre. Et qu'il a créé avec les ancêtres. Ou bien encore, ici, il n'a pas mentionné que la terre d'Allah est nos ancêtres. Là, c'est la terre des ancêtres. Ça veut dire qu'Allah est ignoré. Wallahu musta'an. Fahaoulaï, ceux-là, ceux qui font ce genre de choses alors, ils ne sont pas parmi les soufis, ils ont réuni deux problèmes. Ils ont réuni deux fitnas et ils ont porté deux fardeaux de fitna, deux problèmes. La fitna, l'épreuve de tomber dans l'adoration des tombes, et l'épreuve de mort dans les tombes, et l'épreuve de fabriquer des images. Il y a deux péchés ici. Tous sont des grands péchés. Un, vénérer les morts dans les tombes. Deux, fabriquer les images des personnes. Or, dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fabrique une image ou dessine une main sera chargé de souffler l'âme de Malakiyama dans cette monde. Ça va devenir une personne nouvelle et on va te dire souffle l'âme en lui. Incapable de souffler l'âme, tu seras torturé pour ça. Ce serait une punition pour toi. Mais tu ne peux pas souffler l'âme. Mais tu es dans l'intérêt pour ça. Non? C'est la raison pour laquelle il faut donc éviter ce genre de choses. Et éviter que les mosquées soient les lieux où on vient enterrer les gens. Et éviter que les mosquées soient les lieux où on entre avec les photos. Que ce soit accroché au mur de la mosquée, à la haram. Que ce soit porté sur son vêtement lui-même, ce n'est pas bon. Non seulement ça attire l'attention et ça distrait les gens qui en ont pour prier, mais tu entres dans un lieu de culte avec une photo.
Est-ce qu'on peut
changer quelque chose? On peut pas le tu ne le chasse pas, mais attire son attention parce qu'il est jahil. Il est ignorant, la plupart sont des ignorants. C'est-à-dire que parfois il sort d'un meeting, et comme il aime la prière, et le vêtement qu'il porte a les images de son public, déjà parti, et tant qu'il ne peut pas aller à la maison pour changer, pour revenir prier, il entre des gens prier avec, n'est-ce pas? Parfois il ne connaît même pas. Donc c'est l'occasion de lui dire, mon frère, la prière, on ne prie pas avec, même pas que la mosquée, on ne prie pas avec un vêtement qui porte les images. Il faut en aider pour que ta prière passe. Si tu es soucieux que ta prière soit acceptée par Allah, il faut en aider. Et comment se présenter chez Allah avec une photo sur toi alors qu'il interdit les photos? C'est comme entrer au commissariat avec une arme. Et alors que tu n'es pas policier. Hein? Tu commences à enlever le vêtement comme ça pour qu'on voit que tu as le prière. Là, tu ne vas pas t'en sortir.
Non.
Mais si elle est clément dans la salle, elle me dit du fait que tu entres, tu prises, tu sors, tant que rien t'arrête. Ne pense pas que Yom Al-Qiyama, tu vas partir inaperçu. Non? Donc, il faut préciser, il faut plutôt l'enseigner, qu'il comprenne que ce n'est pas bien. Mais s'il s'entête à faire, laisse-le, parce qu'il ne gâte que pour lui. Il ne gâte que pour lui. Non. Walahuma anha. Ay, an Aisha radiallahu anha, qalat. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه ولهما بمعنى سيدي دابر بخاري دان الحديث دان الركيد بخاري مسلم دابر عائشة جو أدي للبروفيس صلى الله عليه وسلم لسك الأمور لي أريبي لسك الأمور لي أريبي pendant qu'il était souffrant de maladie ou les morts. Il se mit à prendre, il avait un manteau donc, qui se couvrait avec. À des moments, il faisait comme ça, il le fermait un peu le visage, et après, quand il enlève, il dit, oh, c'est ainsi. Alors, il disait, c'est ainsi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça voulait dire? Il dit, « La'an Allah, al-Yahoud wa al-Nasara. » Qu'Allah maudisse les Yahoud et les Nasara. « Et takhadu kubura anbiya'ihim masajid. » Car ils ont pris les tombes de leurs messagers comme des lieux de culte. Non, chez eux, quand un messager est mort, on l'adore. Pourquoi? Parce que pour eux, le messager, on ne peut arriver chez Allah qu'en passant par le message. C'est la raison pour laquelle eux disent qu'il faut adorer Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut atteindre Jésus-Christ que par... On peut atteindre Allah que par Jésus. Et à la fin, Jésus est devenu le créateur des cieux et de la terre. À la fin, même Jésus est devenu celui qui va juger le monde, juger les humains, Yom HaKiyama. Vous voyez comment on a commencé par enterrer et adorer, et venir vénérer, et venir faire des pratiques, non? Allah, le prophète dit qu'Allah maudit les Yahoud et les Nasara. Est-ce que le prophète a maudit parce qu'il les déteste? Là, c'est parce qu'Allah a maudit. Parce qu'il ne revient à personne de maudire son frère. Mais la malédiction que le prophète dit ici, c'est parce qu'il a reçu la prophétie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné que l'acte que les Yahoud et Nasara ont posé en adorant les prophètes qui sont morts, c'est parce que ça porte atteinte directement à Allah dans son rebondissement, dans sa seigneurie et dans son adoration. Donc, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قال مودس اليهود والنصارى parce qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de culte. يحذر ما صنعوا. Le prophète est en train de mettre en garde par rapport à l'acte que ces gens-là sont en train de faire. Mais de nos jours, même les musulmans sont en train de le faire. Les musulmans sont en train de prendre les tombes de Moulana, les tombes de Cheikh, les tombes de Wali. Et ils adorent les morts dedans. Parfois, ce n'est même pas des personnes qui étaient très saines. C'est des personnes qui sont mortes dans le shirk, dans la bida, qu'on est en train de les adorer dans la tombe. Où on pleure. Tu vois quelqu'un qui pleure et s'embrouille sur la tombe et ramasse la tête de la tombe et s'embrouille avec. Il cherche la baraka. Ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, ça se passe dans la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il a mis en garde par rapport à ça, sur ses dernières paroles. Dans ses dernières paroles, quand il était malade, deux semaines avant qu'il meure. Il dit, « Walo la zalika ubri la kabruhu. » Aïcha dit, si ce n'était pas à cause du fait que le prophète a mis en garde de l'acte que les Yahoud faisaient là, et il craint que sa communauté fasse la même chose, on aurait mis sa tombe apparente. C'est-à-dire que sa tombe ne serait pas bien dans une chambre bien encerclée et bien barricadé avec le fer de blindé. Mais on aurait mis ça à l'heure nue. Parce qu'on avait laissé ça à l'heure nue. Tout le monde devait venir adorer le prophète. Donc c'est une hikmah de la part d'Allah que la tombe du prophète soit même coincée dans un angle où personne ne peut avoir accès. Sinon, ça devait devenir objet d'adoration là où il est là, dans la tombe. N'est-ce pas? Et moi, j'ai vu de mes propres yeux quelqu'un qui arrive à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se dirige directement vers le musulman du prophète Mohammed, qui est un peu hors là. Il se tient la langue. Il dit, Ya Rasulallah, ala dua ou l'ipingata. Dua ou l'ipingata. C'est l'invocation de celui qui est en détresse, interpellant celui qui est venu en aide. Oh, le prophète n'est même plus vivant. J'ai vu de mes propres yeux, cette même personne, Ya Rasulallah. Pendant que le policier qui garde l'endroit vient lui faire sortir pour dire non, les gars, c'est pas comme ça, ici on se comporte pas comme ça, on ne crie pas ici. Il dit, je vais faire deux rakats, rakaté une basse. C'était un arabe du Soudan. Il dit, rakaté, je dis, je fais deux rakats. La kibla est comme ça, lui veut faire deux rakats, regardant comme ça. Donc, il ne comprend pas comment il peut arriver à midi. Et il part sans avoir fait deux rakats au prophète. Oh, quand on fait deux rakats à qui? Allah vient de Fasali l'Irapik. Fasali l'Irapik. Et prie pour Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahiya wa mati lillah. Lillahi rabbil alamin. La sharika lahu. ma prière, dit, salati, ma prière, mon nusuki, mon sacrifice, mon mahiya, ma vie, mon rati, ma mort, l'Illahi Rabbil Alamin appartient à Allah. Je le fais pour Allah. La chérie, Allah n'a point d'associé à ça. Mais cet homme-là voulait faire 2 rakas en regardant le musulman du prophète Mohammed en demandant Ya Rasulallah. Alors on l'a donc bousculé parce que Madina, c'est haram, c'est un lieu saint. Et les gardiens de là-bas, les policiers qui gardent là-bas, sont là, c'est les gardiens de la Tawhid. Tu vois un policier comme ça, l'autre il est allé. Tu le vois porter les étoiles là, tu vois, c'est un officier de police temple. Là, c'est allé. Parce que bah, le Tawhid, c'est la cité, la ville de la Tawhid. On grandit là-bas dans le Tawhid, la Aqid, la Sahiha. On comprend que ça, c'est les Khuzabalat. Hein? C'est la futilité. Naam. غير أنه خشى أن يتخذ قبرا مثلا de peur qu'on prenne la tombe du prophète Mohammed comme mosquée, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que quoi? Il avait dit la tatrouni kama atrat nasara ibn Maryam. La tatrouni kama atrat nasara ibn Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu. Ne faites pas de moi ce que les chrétiens ont fait de Jésus, fils de Marie. Ils l'ont transformé en Dieu et il adore. Ne faites pas de moi celui-là. Je ne suis qu'un serviteur. Dites plutôt serviteur d'Allah et messager. C'est ça mon qualificatif. Naam. Wali muslimin, an Jundub ibn Abdillah, radiallahu anhu, qala, sami'tu an-nabiyya, sallallahu alayhi wa sallam, qabla an yamuta bi khamsin, wa huwa yaqulu, inni abra'u ila Allah. أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Ça, c'est la version de l'imam muslim dans le hadith de Aïcha. Il dit, d'après Jundub ibn Abdillah, quand la famille de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, qabla an yamuta bi khamsin, avant de mourir 5 jours avant. Donc, avant qu'il ne meure 5 jours avant. 5 jours avant sa mort. Donc, vous voyez que la précision, si n'était pas dans l'autre hadith de Aïcha, est venu dans le hadith de Jundub ibn Abdillah. Elle dit, hein, n'est-ce pas? Al-Bajali radiallahu alayhi wa sallam. وهو يقول إلى تنفيذي إني أبرأ إلى الله. الله أكبر. الدنيا بارد لهم. الدنيا بارد لهم. Il est il va mourir, il va, il sait qu'il va bientôt mourir. Parce qu'avant sa mort, il n'y a pas un prophète qui meurt, sauf que les anges viennent lui avertir et lui demander s'il continue, s'il veut continuer à faire le message ou bien s'il veut mourir. Tous les messagers, avant qu'il ne meure, Allah lui donne le choix. De choisir entre soit mourir ou continuer à vivre. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le choix lui a été présenté par Jibril, alayhi salam, il a compris que la mission était finie. Et il a compris que ça ne sert à rien de rester quand la mission est finie, alors que l'au-delà est meilleur. Voilà l'akhirat, khayr, wa abqa, la salah, la souffrance de la terre. La mission est finie, je reste encore faire quoi ici? Il doit partir. Alors il dit, le prophète a codé le langage. Quand les sahaba sont entrés ce jour-là, il a dit, il n'y a pas un serviteur d'Allah dont on a proposé 2 choses, l'une est facile, l'autre est difficile, sauf qu'il a choisi ce qui est facile. Ce qui est difficile, c'est continuer à vivre, et ce qui est facile, c'est aller, c'est mourir. Il dit, on a proposé la même chose à votre compagnon, et il a choisi le meilleur facile. Les sahaba n'ont pas très vite compris, mais Abubakar a compris. Abubakar a mis à couler les larmes. Les sahaba n'avaient pas encore compris le langage. Mais Abubakar, très intelligent, il a vite compris que le prophète de Allah dit que la mort est proche. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini à couler les larmes. C'est donc comme ça que, avant que le prophète, avant, à un moment donné, le prophète a prononcé, il a dit, Ar-Rafiq al-A'la, la compagnie de l'au-delà. La compagnie de l'au-delà. Il a répété ça plusieurs fois. Aïcha et quelques sahaba qui étaient là ont compris qu'il a choisi la mort. La compagnie de l'au-delà, ça veut dire, oh Allah, je veux t'accompagner maintenant. C'est ça, c'est toi que je veux maintenant. Et c'est comme ça qu'il est mort. Donc ici, vous voyez que c'est la dernière parole de l'homme. 5 jours avant sa mort, il dit « Inni abra'u ilallah ». Je me désengage auprès d'Allah. Je me refuge auprès d'Allah contre toute personne. « Un yakuna minkum, un yakuna li minkum khalila ». Je me désengage auprès d'Allah que j'ai parmi vous, que je prenne parmi vous un ami intime. Ça veut dire que parmi vous, là, il n'y a pas un ami intime. Parce que Allah m'a déjà pris comme ami intime. « Inna Allah kalita khadani khalila ». Car Allah m'a déjà pris comme ami intime. Et qui dit ami intime du prophète, dit ami intime d'Allah par translation. Et le prophète dit, je ne peux donc vous prendre quelqu'un parmi vous comme ami intime parce que Allah m'a déjà pris ami intime comme il avait pris Ibrahim alayhi salam, ami intime. Et « Walokuntu mutakhidan min ummati khalilan » et s'il m'était permis de prendre un ami intime de ma communauté, dans ma communauté, « Latakhasu Abu Bakr » j'aurais pris Abu Bakr. Mais ce qui reste un ami, copain, il dit « Ala wa inna man kana kablakum » ça c'est la deuxième partie de l'histoire de ce qu'il disait. Il dit « Et en vérité, ceux qui sont passés comme les peuples avant vous, كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. Ils avaient l'habitude de prendre les tombes de leurs saintetés, leurs prophètes, comme des lieux de culte. Alors, en vérité, فلا تتخذوا القبور مساجد. Quand vous allez rester après moi, ne prenez aucune tombe comme lieu de culte. فإني أنهاكم عن ذلك. Il répète en disant, car je vous interdis par rapport à cela. Allahu musta'an. Où sont les musulmans alors quand les gens se courbent devant les tombes alors qu'ils disent la ilaha illallah, mais ils se courbent devant les tombes et ils demandent aux morts de venir trancher entre eux dans les différents. Une famille est en train de se déchirer au village. Au lieu d'aller dire que Allah apporte la paix dans la famille, ils disent allons, chacun va s'exprimer là-bas devant la tombe du grand-père. Subhanallah. Au point où celui qui refuse d'aller, on dit c'est même lui le sorcier, c'est même lui le malfaiteur, c'est même lui le seigneur. Parce qu'il refuse d'aller faire le shirk, on le tape sur le tout. Est-ce que c'est bon d'aller là? Il n'y a pas de Quran. Le professeur dit, je vous interdis donc par rapport à cela. Par la suite, l'auteur Rahimahullah. إلى ديال سيد الحديث أقرناها عنه في أقرناها عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم وابن حبان L'auteur, rahimahullah, Cheikh Islam Mohammed ibn al-Wahhab, il dit Fakrinaha anhu fi akhir hayatihi. Cette introduction a eu lieu à la fin de la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le dernier jour de sa vie. Pour dire qu'il n'y aura rien qui viendra encore abroger cela. Thumma innahu la'ana. Et par la suite, il a mentionné la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les Yahoud et Nasara par rapport à leur comportement, leur attitude, leur manière de faire. والصلاة عندها من ذلك le fait de prier au lieu où on a enterré les morts ou bien l'homme qui est mort, l'imam, le pieu, n'importe qui, fait partie de cette malédiction-là. Même si on n'a pas construit une maison sur ce lieu-là, même si on n'a pas construit une mosquée sur ce lieu-là, n'est-ce pas? On voit ma'ana qu'oléha khashi an yutakhada masjidan. C'est ça dans le sens de la parole de Aïcha où elle a dit, le prophète s'inquiétait et avait peur qu'on reste prendre sa tombe comme lieu de prière, comme masjid. Fa inna sahabata lam yakunu li yabnu hawla kabrihi masjidan. Car on ne peut pas imaginer, hein? Il est loin d'imaginer que les Sahaba pouvaient rester prendre la tombe du prophète comme lieu de culte. Ils étaient suffisamment préparés, formés et éduqués dans ce sens-là qu'ils ne pouvaient pas le faire. Mais comme l'islam ne devait pas s'arrêter seulement à l'époque des Sahaba, ça devait continuer jusqu'à la fin des temps, il faut que la mise en garde, que l'enseignement continue jusqu'à Yom Kiyama, et ça reste comme nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui les enseignements que vous faites avec donné à ses compagnons, n'est-ce pas? Sur ce chapitre-là, au cours du monde et en cours de la salat de vie, et tout endroit dont on a ciblé pour prier est déjà devenu mosquée. Tout endroit sur la terre où on a ciblé pour accomplir les prières, c'est bien appelé mosquée. Bien même encore, tout endroit où on accomplit les prières régulièrement est appelé mosquée, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le hadith de quoi? Et tout endroit, et Allah m'a offert la terre comme lieu de prière et objet de purification. Projet de purification. S'il n'y a pas l'eau, on peut se purifier avec la terre comme dans le Jaïm, n'est-ce pas? Et on avait déjà dit dans le chapitre de Fiqh, dans le Fiqh comme ça. Et tout endroit où on peut déjà prier pour que ce soit propre, n'est-ce pas? C'est déjà bon pour la prière. Non. Et dans le récit de l'imam Ahmed ibn Hanbal, dans le Musnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, selon une scène de transmission de hadith, Jayid, qui est très bien, c'est-à-dire, c'est ma mère de dire que le hadith de Hassan. نعم أقل شيء أنه حسن وإلا قد يكون صحيحا وعلى الإسناد كيف صحيح ينقل في الإسناد هو جيد سوي ما نجيك له الإسناد سواء صحيح أو بيان حسن عشان الترانسميشن إلى بروك نسبة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يا أبي عبد الله ابن مسعود مرفوعا بدي قال النبي صلى الله عليه وسلم وبي عن النبي سوي فما أبرجيه بيان كونتاكي Il dit, « Ani Nabi, son dit, marfou, andimana, il lève cette parole et attribue au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. » Il disait dans ce hadith que quoi ?« Inna min shirari nas, man tubirikum musa'at, ouhum ahya. » Parmi les pires des gens, les plus pires, les mauvaises personnes, sont ceux-là dont Qiyama va arriver pendant qu'ils vivent encore. Les pires des gens sont dans la dernière génération. Ceux-là dont le tremblement, le séisme, le boulement, le secousse, la panique de la résurrection, la panique de la fin du monde, les trouvera vivants. Ici, il y a point d'interrogation. Est-ce que ça veut dire que tous ces gens-là, il n'y aura pas de croyants parmi eux? Est-ce que même les croyants de ce moment-là seront les pires hommes? Là, ça ne veut pas dire que ça va trouver les croyants et les croyants seront les pires hommes. Ça veut dire que avant que Zazulat Sa'an arrive, avant que le monde commence à se couler et à prendre fin, tous les croyants seront morts. Il y a d'abord là, il y a dans les signes précurseurs, les grands signes précurseurs de la fin du temps, l'apparition du grand gaz qui envahira toute la terre et tout âme croyante mourra ce jour, en ce moment-là. Ce grand gaz va récupérer les âmes de tous qui sont croyants. Et il ne restera que ceux qui sont incrédules, les infidèles, les koufars, les mouchirikoum, les monastiques, toutes ces qualités-là vont rester. Et ils vont dire, vous voyez, on vous avait dit que la foi, c'était quoi? C'était la malédiction. Le vent, le gars qui est arrivé n'a fait mourir que les croyants, ceux qui disaient qu'ils sont croyants. Hein? Comment est-ce que Dieu peut être injuste et faire mourir ces croyants? Les gens vont réduire. En ce moment, les gens vont dire, heureusement que nous n'étions pas des familles de croyants. Alors que Allah est en train de récupérer les croyants afin qu'ils ne subissent pas la tourmente de l'heure, de la fin du monde. Jusqu'à ce que, quand tout homme croyant périra, mourra, alors, « Iza zulzilat al-ardu zilzalaha » arrivera. « Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim » Oh, à Rome, craignez votre Seigneur, car les secousses de la fin du temps, c'est quelque chose de grandiose. La suite du verset dit que quoi? يوم ترونها تزأل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. C'est le jour où tu verras la femme qui allait te lancer son bébé par terre en fuyant. Celle qui était enceinte va accoucher. Tu verras les gens ivres, affolés. Ils ne sont pas ivres parce qu'ils ont bu de vin, mais parce que c'est le châtiment qui est dur, qui est rigoureux. Dans un autre récit ressemblant à celui-ci, le prophète Mohammed disait, « Qu'Iyam en arrivera pas alors qu'on dit encore sur la terre, Allah, Allah, et le nom d'Allah ne sera plus prononcé sur la terre. » C'est-à-dire que la fin du monde n'arrivera pas pendant qu'on prononce. Il n'y aura pas d'azan. Qui va faire l'azan? Les mouminis sont morts. On ne prononce plus le nom d'Allah. Le nom d'Allah est mort, et puis il n'y a pas. Ne restera que ceux-là qui chantent et dansent. Ne restera que ceux-là qui boivent et saoulent, qui font le zina. Ils vont dire la malédiction est partie avec les croyants. Et nous sommes restés heureux. Donc, heureux sont ceux-là qui n'adoraient pas Allah et malheureux sont ceux-là qui. Ils ont dit qu'ils adoraient Allah et voilà que leur Allah les a tous tués. Alors que c'est une punition qui les attend comme ça et ils pensent que Tiyama, c'est encore loin. C'est ça le sens du hadith. Inna min shirari an-nas man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya. Les pires des gens sont ceux-là dont la tourmente de la fin du monde arrivera alors qu'ils sont encore en vie. Ils vont subir ce que l'on n'a jamais subi comme angoisse, comme stress, comme torture, comme épreuve. Non, ça c'est la première des personnes. Parmi les fichurards, non, ceux-là dont Tiyama va les trouver, la fin du monde va les trouver, ils sont encore en vie, n'est-ce pas? وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. Ainsi que ceux-là qui prennent les tombes comme lieu de culte, comme lieu de recueillement spirituel. On dit que pour renforcer la spiritualité, les gros mots, spiritualité, autour des tombes, parfois quand on est chagriné, on a des problèmes, on va un peu s'asseoir devant la tombe des grands-pères ou d'ancêtres, ou bien d'un prophète d'un wali. Comme vous voyez, les gens voyagent du Cameroun, ils vont au Sénégal, au pays des tombes de Mohamed Ignace, d'Ibrahim Akola. Ils vont jusqu'à, parfois en Algérie, ils vont se ressourcer près de la tombe d'Amar Tijani. Ils vont, comme les Jama'a s'établissent, ils vont au Pakistan, où ils vont se ressourcer auprès de la tombe de Mohamed Ilyas, le promoteur de cette tariqa. C'est comme ça les tassaouis, les mutassaouis pas. Les soufites, c'est comme ça ils font. Et ils n'adorent pas Allah sans passer par leur sainteté. Même chose avec les catholiques. Pour eux, il n'y a pas un chemin amenant vers le Seigneur sans passer par la sainteté. Par la sainteté. Donc, tu vois un Jama'a établi, il peut faire tout, mais son objectif, c'est aller un jour jusqu'au Pakistan. Pour lui, la Mecque, aller faire le Hajj, la Omra n'est pas un problème. Pourtant, c'est un pilier de l'islam. Mais son problème, c'est qu'il fasse le Khourouj jusqu'à la fin 40 jours. Et les 40 jours-là, s'il parvient à arriver jusqu'au Pakistan, c'est qu'il a atteint le sommet. C'est qu'il atteint le sommet de la spiritualité dans le tariqa. Et si j'en ai aussi la même chose, s'il fait tout, mais il n'arrive pas auprès de la tombe de Nias, ou bien de Kolak, ou bien encore plus grand que ça, à Fès, au Maroc, à Tanger, où est enterré Amadou Tijani, là maintenant il gravit, et quitte de telle place à telle case, jusqu'à ce qu'il va atteindre chez au Kabir, chez au Moulana, jusqu'à ce que parfois il dit non, qu'il voit Dieu. Non, il dit qu'il voit Dieu. C'est des hallucinations, non? Quelqu'un fait des hallucinations. Il fait ce qu'on a. Il a le mot de tête. Ça l'amène à ce qu'il voit. Il fait des hallucinations. Il est malade. On dit qu'il a vu Dieu. Il ne voit même pas le prophète. Il voit Dieu. Il voit Allah. Le même Allah que Moussa alayhi salam n'a pas vu. Que Muhammad sallallahu alayhi salam a fait le voyage nocturne, mais il dit qu'il n'a pas vu. Une lumière, comment vais-je observer? Alors que Moussa dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini anzur ilayk. Oh Seigneur, manifeste-toi afin que je te voie. Fais-moi te voir. Allah a répondu en disant quoi? L'entaran, tu ne me verras pas. Tu ne peux pas me voir sur terre. Voilà qui nous ouvre les yeux, observe la montagne. Si elle s'est restée stable, tu me vois. quand Allah a voulu se manifester, la montagne s'est fait comment? Elle s'est émiettée. Moussa est dans la montagne, ici, l'autre montagne s'est émiettée. La montagne ici tremble, Moussa tombe évanoui. Et quand Moussa s'est réveillé, il a demandé pardon à Allah pour avoir demandé ce qui était pour, ce qui n'était pas bien pour lui. Donc, on ne verra pas, personne sur terre ne peut voir Allah. Ici, ce n'est que de la folie. Le tasawuf est comme une forme de folie. C'est comme une forme de migraine qui atteint déjà où quelqu'un commence à faire des hallucinations. Il reste comme des rêves, il voit des choses. Ce n'est pas bon, la maladie. Naam. Alors, il ne m'échera l'innas, même si tu dis que Moussa'a, ou un ahya, ou l'adhin yattachidouna kouboura andiya et masajid. Ainsi que ceux-là qui prennent la tombe de leur sainteté comme les lieux de culte. Naam. Le hadith est rapporté par Abu Hatim ibn Hibban dans son sahih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.